Tournons nos cœurs vers la parole, qu'elle puisse nous parler. J'ai intitulé mon message ce matin « Êtes-vous réconcilié? » Wow, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut parler énormément de variantes, d'aspects dans cette réconciliation. Mais laissez-moi vous commencer par une petite anecdote. Un réveillon du Nouvel An au Garrick Club de Londres. Seymour Hicks a demandé au dramaturge britannique Frédéric Lonsdale de se réconcilier avec un autre membre de la troupe. Les deux s'étaient disputés dans le passé et n'avaient jamais restauré leur amitié. « Vous devez, » Hicks dit à Lonsdale. « Il est très désagréable d'être hostile à un tel moment. Allez, fini maintenant et allez voir et souhaitez-lui une heureuse nouvelle année. » Donc, Lonsdale traverse la pièce et va voir son ennemi. « Je vous souhaite une bonne et heureuse année, mais une seule. » Donc, je ne fais pas la promotion du tout de ce genre de réconciliation. Pas du tout. Mais je voulais juste vous montrer un peu, vous donner une idée dans laquelle on va aller pour vous montrer que la réconciliation, c'est très important. C'est très important. Question. Qui a déjà dû se réconcilier? Vous pouvez lever la main. C'est correct. D'habitude, c'est souvent moi qui parle ou quelqu'un qui parle. Donc, qui a dû déjà se réconcilier? Devrait théoriquement voir toutes les mains. Théoriquement. Si vous avez déjà été un enfant et que vos parents ont déjà dit... « Va demander pardon à ton frère parce que tu l'as frappé. » Hein? On l'a tout fait. Donc, on s'est tous déjà réconciliés. Moi, j'ai déjà dû demander à mon frère pardon parce qu'il me faisait freaky. J'ai déjà dû demander pardon à mon épouse parce que je lui ai dit des mots blessants. Ou avec un frère de l'église parce que je l'ai blessé. La parole... de Dieu nous enseigne qu'il faut se réconcilier. On l'a tous fait à un moment ou à un autre. Mais se peut-il qu'il y ait des fois où nous avons passé à côté d'une bonne occasion de se réconcilier? La parole de Dieu nous enseigne qu'il est bon de se réconcilier et que nous devons nous réconcilier. Mais avec qui? Comme j'ai dit, il y a une multitude de raisons dans lesquelles la situation de la réconciliation est bonne. Mais ce matin, je vais vous parler de trois aspects. Je vais vous parler de la réconciliation, la première réconciliation avec Dieu. Après ça, je vais vous parler d'une deuxième réconciliation avec Dieu. Évidemment, on va voir quel aspect ces deux réconciliations avec Dieu sont. Et ensuite, je vais vous parler de la réconciliation entre frères et sœurs dans l'Église. Vous êtes peut-être dans l'Église pour la première fois. Et là, je ne parle pas dans cette Église pour la première fois, mais peut-être vous êtes là ici dans une Église pour la première fois. Et les mots « réconciliation avec Dieu » ne veulent rien dire. Réconciliation avec Dieu. Vous dites que « Pourquoi j'aimerais me réconcilier avec Dieu? J'ai rien fait. Je lui ai rien fait. » Laissez-moi commencer par vous lire un passage de la Bible qui parle de la réconciliation. Romains 5, 10. « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. » Je sais que je commence par quelque chose d'assez drastique. Hein? J'enlève le bandage rapidement. Des fois, ça peut faire mal. Moi, vous, avons été ennemis de Dieu. Nous avons été séparés de Dieu par notre péché. Personne ne peut dire qu'il a jamais mal agi. Et à cause de cela, la relation entre Dieu et nous a été brisée. Heureusement, Dieu a préparé un plan. Il nous a mis dans ce plan. Et on peut le voir dans le deuxième verset. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. La solution vient de celui qui a été lésé. La solution vient de Dieu. C'est spécial, non? Souvent, on fait quelque chose de mal et c'est nous qui devons réparer. Mais là, c'est celui qui est lésé qui produit la solution. Dans Colossiens 1, 19 et 20, ça nous montre aussi, « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20 aussi, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » On le connaît bien. « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés ensemble par Jésus-Christ. Et il nous a donné cette réconciliation. Il nous l'a donné. Donc, voyez-vous, il y a un précipice entre nous et Dieu. Un précipice qu'il ne peut pas être rempli. Ça a été causé par toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Que tu as fait, que j'ai fait. Mais heureusement, Dieu a fourni le chemin, la solution. Et c'est quoi? Jésus-Christ qui est mort pour toi et moi. Et qui a pris toute la culpabilité de tes péchés. Ce matin, ce cadeau gratuit t'est offert. Donc, si tu es assis ici et que tu dis « Wow, c'est hardcore un matin. » Oui, mais non. C'est un cadeau gratuit. C'est un cadeau de réconciliation avec celui qui t'a créé. Maintenant, laissez-moi 2 minutes de plus de cette partie pour vous donner un peu plus de matière. Pour ceux qui connaissent évidemment ce que je viens de dire, qui ont compris, donnez-moi 2 minutes. 5 points de théologie du salut que j'ai trouvé très intéressantes qui peuvent peut-être vous donner des fois un petit rafraîchissement sur ce qu'est le salut. Donc, premier point, c'est la justification. Un mot qui est long, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans la justification, le pécheur se tient accusé, mais il est déclaré par le juge non coupable. Un autre aspect, c'est la rédemption. Le pécheur se tient devant Dieu esclave. Donc, on était un accusé dans la justification, maintenant on est un esclave, mais racheté à un grand prix par le sang de la justice. Un mot qu'on connaît bien, le pardon. Le pécheur est en dette face à Dieu, mais Dieu choisit de oublier cette dette. La réconciliation, ah, un beau sujet. Le pécheur est ennemi de Dieu. C'est fort, ennemi. Mais heureusement, par cette réconciliation, il devient ami de Dieu, car la paix est remplacée par la discorde. Et la finalité qui englobe tout ceci et qui donne l'aspect qu'on veut, la finalité, le but, l'objectif, c'est l'adoption. Ceci est un point que j'aime beaucoup. Le pécheur se tient devant Dieu comme un étranger, mais il nous adopte et nous sommes maintenant ses enfants. Donc, si on doit résumer ces 5 points dans un point, nous étions des accusés qui ont été rachetés, ce qui fait que nous sommes pardonnés et nous pouvons être amis de Dieu, ce qui nous considère comme faisant partie de la famille des fils et des filles du Dieu vivant. Laissez-moi relire cette phrase-là. Nous étions des accusés qui ont été rachetés, ce qui fait que nous sommes pardonnés et nous pouvons être amis de Dieu, qui nous considère comme faisant partie de sa famille, des fils et des filles du Dieu vivant. C'est une solution qu'aucun être humain ne pouvait penser. Seulement Dieu, qui est le lésé, comme j'ai dit, pouvait présenter une telle chose. Lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous changeons de famille. Nous faisons partie de sa famille. Romains 8, 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Dans Éphésiens 5, 8 « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière, vous êtes dans la lumière. Marchez comme des enfants de lumière. » N'est-ce pas magnifique de savoir que Dieu qui veille sur nous et qu'il veut notre bien. Étant donné que nous sommes dans sa famille, nous serons avec lui après le temps sur cette terre. C'est un bel espoir, n'est-ce pas? Amen. Donc, maintenant que j'ai parlé de la réconciliation avec Dieu, la première réconciliation, laissez-moi parler de la deuxième réconciliation avec Dieu. Évidemment, vous dites « deuxième réconciliation avec Dieu ». Ce n'est pas dans le cadre du salut, mais c'est dans le cadre d'un enfant de Dieu. Hein, j'ai parlé que nous sommes dans la famille de Dieu. Donc, malheureusement, malgré notre nouvelle nature, nous péchons encore. Nous avons besoin d'une deuxième réconciliation avec Dieu. J'ai trouvé une phrase qui décrit ma pensée lorsque je parle de la deuxième réconciliation avec Dieu. Pour commencer, lorsque je parle de la deuxième réconciliation avec Dieu, c'est évidemment un enfant et son père qui, par le Saint-Esprit, désire se réconcilier à cause d'une faute. Je peux dire comme Paul que ce n'est pas toujours facile de faire les bonnes choses et j'ai besoin de me réconcilier. Paul dans Romains 7, 19 dit « Je sais, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Cette citation, je l'ai lue quand je faisais mon étude. Et je trouvais que c'était une bonne vérité. Notre indépendance et la fierté peuvent provoquer des conflits entre nos désirs et la volonté de Dieu. Je relis la phrase. Notre indépendance et notre fierté peuvent provoquer des conflits entre nos désirs et la volonté du Seigneur. On est égoïste. On pense à nous. On aime notre petit confort. Et c'est contraire, souvent, à la volonté de Dieu. C'est donc clair que la chair qui est encore en nous ne cherche pas à plaire à Dieu et va causer des fissures dans la relation avec Dieu. C'est quoi une fissure? Évidemment, c'est quelque chose qui est brisé. Heureusement, on peut se réconcilier avec Dieu. On peut. Hébreux 10, 22 dit « Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Voyez-vous, la parole de Dieu n'est pas muette sur le péché du chrétien. Elle n'est pas muette. Dieu veut qu'on s'approche de lui pur. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'approcher pur de lui? Parce qu'il est saint. Il est trois fois saint. Donc, si on veut s'approcher de lui, on ne doit pas le faire d'une façon légère. Lorsqu'on prie, lorsqu'on vient à l'Église, lorsqu'on veut être en relation avec lui, on ne devrait pas le faire d'une façon légère. Car il a dit qu'il était saint et qu'il veut qu'on s'approche de lui, comme dans sa sainteté. Alors, c'est quoi la solution? Et là, c'est mon point. La deuxième réconciliation. La réconciliation avec son Sauveur demande de l'humilité. Jacques 1, 21 dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que quelqu'un d'autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur à la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. J'ai pris des versets dans Jacques ici. Ici, on peut voir qu'un frère s'est égaré. Vraiment loin, à un tel point qu'il faut qu'un autre frère l'exhorte à revenir. Mais j'aime la promesse. La promesse qui dit « couvrira une multitude de péchés ». Lorsqu'on se réconcilie avec Dieu de façon sincère, il nous pardonne. Comme dans la première fois, comme dans la première réconciliation, dans la deuxième réconciliation, il nous pardonne. Il nous pardonne quand? En tant qu'être humain, on a tendance à dire « je te pardonne du bout des lèvres », des fois. Et on va finalement pardonner quand on aura oublié peut-être. Mais Dieu, lorsqu'on lui demande pardon, il nous pardonne immédiatement. Et qu'est-ce qui se passe? La relation est immédiatement refaite. Wow! Immédiatement! Le péché est très fort dans nos vies. Très, très fort. Et il ne faut pas le prendre à la légère. Parce que, par la puissance de l'Esprit, il faut le combattre. Par la puissance de l'Esprit, il faut le combattre. Mais quand on a demandé pardon à Dieu, il veut juste une chose, être réconcilié. Et quand c'est réconcilié, c'est fini. Nous n'avons pas à douter de savoir est-ce qu'il nous a peut-être pardonné, est-ce qu'il va nous pardonner, est-ce qu'on mérite son pardon, est-ce que le péché est trop grave pour qu'il ne passe pas par-dessus. Il donne son pardon et c'est un nouveau départ. À ce moment-là précis, c'est un nouveau départ. Je ne veux pas minimiser les conséquences d'un péché. Il y a des conséquences à plusieurs péchés, des conséquences graves. Mais ici, je parle de la réconciliation avec Dieu. Et on a souvent tendance à penser que les conséquences sont liées à la réconciliation. Et je veux qu'on puisse vraiment dissocier ces deux choses-là. Les conséquences, il y a des conséquences au péché. Mais ils ne sont pas liés à la réconciliation avec votre Père. Parce que, comme j'ai dit, lorsque vous demandez pardon à votre Père, il vous donne immédiatement son pardon plein, son plein pardon. Souvent, notre honte et notre orgueil vont peser plus fort dans la balance en pensant que nous ne pouvons pas nous réconcilier. Ça m'est arrivé. J'étais honteux. J'ai fait quelque chose de mal. Et je sais que Dieu, par son Saint-Esprit, me parle et il me dit, « Ce que tu fais, ce n'est pas la bonne chose. » Et là, je veux me réconcilier, mais c'est difficile parce que je me dis, « Ah, je vais peut-être retomber. C'est trop grave. Ce n'est pas une bonne chose. Je n'aurais pas dû le faire. » Et je passe à côté de la joie de se réconcilier avec mon Père céleste. Une bonne explication de la parole de Dieu qui montre cet aspect de la réconciliation pleine et qui est dissociée d'avec les conséquences, c'est dans Luc 15. Et vous connaissez l'histoire, je sais, c'est le Père et le Fils prodigue. Donc, c'est le fils prodigue qui parle au verset 18. « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Juste avant, je veux mentionner, voyez-vous la phrase qu'il a dit, « Je ne suis pas digne d'être ton fils, traite-moi comme un de tes employés. » Il y a une honte, mais il décide de le faire quand même. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Voyez-vous? Alors, je vais vous encourager, comme le fils prodigue, à être réconcilié avec Dieu afin d'avoir son pardon pour vos fautes. Qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, il ne faut pas laisser un petit coin qui reste un petit coin sombre dans votre vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu le Père va courir et se jeter à votre cou et se réconcilier immédiatement. Est-ce que vous pensez que les conséquences du fils prodigue n'étaient pas graves? Il venait de dilapider la fortune de son père dans des choses inutiles qu'il ne pourrait jamais récupérer. Incroyable! Écoute, c'est difficile à faire. Mais son père a couru vers lui, s'est jeté à son cou, et il l'a embrassé. Et je sais que Dieu notre Père va faire la même chose dans chaque situation, dans chacune des situations où ce que moi, je tombe et que je vais aller retourner vers lui pour me réconcilier. Alors, nous avons vu la première réconciliation avec Dieu qui nous donne la possibilité de faire partie de sa famille. où est-ce qu'on peut appeler Dieu notre Père? Nous avons vu la deuxième réconciliation avec Dieu, où est-ce que ça nous donne la possibilité de nous réconcilier quand nous faisons des fautes. Maintenant, la troisième réconciliation, c'est avec nos frères et sœurs. Dans Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement. Comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » C'est l'histoire de deux frères. Ils vivaient dans des fermes voisines, mais ils ont eu une querelle profonde. Ils avaient souvent partagé leurs ressources, mais cette pratique avait arrêté. Ils n'avaient plus rien entre eux que de l'amertume. Un matin, quelqu'un frappe à la porte. Un charpentier. Ça tombe trop, mais vous allez voir. Le charpentier avait demandé s'il y avait un peu de travail à faire. Notre fermier répond qu'il avait quelque chose qu'il pouvait faire. Il a amené le charpentier à un endroit où les deux propriétés se réunissent. Et il lui a montré que l'autre frère avait pris un bulldozer et avait creusé un fossé entre les deux terrains. Le fermier lui a dit, « Je sais qu'il a fait cela pour me mettre en colère. Je veux que vous m'aidez à lui remettre la monnaie de sa pièce par la construction d'une grande clôture. » Donc, le fermier dit, « OK. » Fait que le fermier travaille toute la journée. Et quand il va faire le rapport au fermier, le fermier remarque qu'il n'y a pas de clôture. Bon. Quand le charpentier avait utilisé son talent pour construire un pont sur le ruisseau et à la place de la clôture. L'autre frère a vu le pont, a été ému que son frère ferait une telle chose. Les deux frères se sont réunis dans le milieu et se sont réconciliés. Ils ont vu le charpentier emballer ses outils et lui ont demandé de rester un certain temps pour faire plus de travail. Le charpentier a répondu, « Je suis désolé, mais j'ai d'autres ponts à construire. » Cette petite illustration est premièrement pour vous montrer que, comme dans le passage de Éphésiens, que la réconciliation, c'est une grâce. Une grâce qui est même donnée par Dieu. C'est certainement pas naturel de se réconcilier. Hein? Quand quelqu'un nous blesse, on veut le blesser aussi. Blesser. Mais on ne devrait pas. Mais pourquoi on ne doit pas se reblesser? Pourquoi est-ce qu'on devrait, en tant que frère et sœur, être réconcilié? Est-ce que vous pensez qu'entre frères et sœurs, on devrait se réconcilier? La réponse, évidemment, c'est oui. Entre autres, on peut voir cela dans le sermon de Jésus dans son sermon sur la montagne. Il est en train de parler que son message va au-delà de la loi. Évidemment, la loi, c'était assez un pour un, hein? Œil pour œil, dent pour dent, des choses comme cela. Mais lui, il veut aller beaucoup plus loin et il veut nous montrer à quel point la réconciliation est importante. Donc, dans Matthieu 5, il dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Lorsque je donne le cours de membre le matin, nous devons discuter des privilèges et des responsabilités des membres de cette Église. Une partie, c'est l'amour fraternel, ou moins communément appelé les loulas, les uns les autres. On discute de sujets en relation avec un concept très important dans cette Église. Je crois que vous avez certainement déjà entendu l'unité. L'unité de l'Église est ce qui nous différencie de la majorité des groupes. On veut être unis. Mais pourquoi est-ce qu'on veut être unis? Hein? On va regarder un petit peu. L'unité de l'Église n'est pas une option. Elle est au cœur même de ce que le corps de Christ doit être. N'est pas une option, elle est au cœur même de ce que le corps de Christ doit être. C'est fort. C'est le corps de Christ qui doit être uni. C'est pas juste toi puis moi, c'est tout le corps. Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous encourage à nous rappeler à quel point nous sommes unis, non seulement comme individus, mais comme Église de Dieu. Ce n'est pas mon Église. Ce n'est pas l'Église des anciens. Ce n'est pas juste votre Église, mais c'est l'Église de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est pour la gloire de Dieu et son témoignage à travers nous qu'il faut appliquer ce que la parole de Dieu enseigne dans Jean 13, 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voici un commandement nouveau, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » On ne doit pas seulement aimer et être réconcilié avec Dieu, mais on doit aussi aimer et réconcilier nos frères et nos sœurs. C'est à notre façon d'interagir ensemble que les gens du dehors vont reconnaître Christ. Nous sommes le témoignage de Christ. Nous sommes ce que les gens vont dire de Christ. Donc, qu'est-ce qui arrive si on est en discorde et on est un contre l'autre? Les gens vont se dire « Christ est en discorde, est en chicane l'un avec l'autre. » Alors, je crois qu'il est de la plus haute importance d'être réconcilié. J'ai écrit une petite phrase que, bon, c'est de mon cru, vous me direz, c'est bien, mais c'est pas excellent. Mais peut-être que ça peut réconcilier ce que vous avez comme ce que j'ai dit. Je pense qu'il est plus important de ne pas devenir de bon couturier afin de recoudre une fois qu'il y ait une déchirure, mais d'être des agents de paix. Voyez-vous ce que je veux dire? La réconciliation, c'est de recoudre. Mais au-delà de ce que je veux prêcher ce matin, de dire qu'il faut se réconcilier, on devrait être des agents de paix. Des agents qui, comme le dit Marc 9,50, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, soyez en paix les uns avec les autres. La réconciliation, il faut la faire. Mais je vais aller au-delà de mon message en vous disant que si on est des agents de paix, peut-être qu'on va éviter certaines réconciliations. Laissez-moi vous donner quelques suggestions, des suggestions positives à faire entre frères et sœurs. Marc 19, 51, « Soyez en paix les uns avec les autres. » Romains 12, 10, « Ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Romains 12, 15 à 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Romains 15, 7. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Romains 16, 16. Saluez-vous les uns les autres. Il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup de petites chicanes qui commencent parce qu'on oublie de saluer quelqu'un. C'est vrai! Et des fois, ça peut être volontaire, mais des fois, ça peut ne pas être volontaire. On est des êtres humains avec des sentiments, et quelqu'un qui ne nous dit pas bonjour parce qu'il nous croise comme ça peut avoir beaucoup de raisons. Mais essayez de vous saluer. Peut-être que ce matin-là, vous allez éviter de devoir demander pardon. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Romain. Romain 16. 16. Saluez-vous les uns les autres. Paul, il devait avoir une idée en arrière de la tête. 1 Corinthiens 12, 25, 24 et 25 dit « Dieu a disposé le corps d'une manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Des autres, excusez. Éphésiens 4, 2 et 3 dit « Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix. » Le lien de la paix. La paix. N'est-ce pas n'est-ce pas un mot magnifique? La paix. La paix. Qu'est-ce que serait notre Église si nous n'étions pas en paix? Malheureusement, il y a beaucoup d'Églises qui se divisent parce qu'ils ne sont pas en paix les uns avec les autres. Il manque de réconciliation. Alors, nous avons vu trois points. Un message baptiste classique. Premièrement, nous avons vu que si nous ne sommes pas des enfants de Dieu, il faut absolument être réconcilié avec celui que l'on a peu appelé Père. Il avait prévu le plan de réconciliation. Il vous l'offre. J'ai écrit « Je le redis ». Je l'ai déjà redit, je ne le redirai pas encore, mais non, je vais le redire. Vous avez besoin d'être réconcilié avec votre Père. Faites-le aujourd'hui. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez des petits coins sombres, et on en a tous de votre vie, qui ont besoin d'être remis en lumière par le Saint-Esprit, faites la paix avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Il attend de courir à votre rencontre et de se jeter dans vos bras pour être complètement réconcilié. Il n'est pas là pour vous, il n'est pas là pour vous inonder de culpabilité, au contraire. Au contraire, il va se réjouir d'avoir retrouvé la pleine relation. Et dernièrement, si vous savez que vous avez causé ou que vous faites partie d'une querelle et que cela fait briser l'unité de l'Église, alors pourquoi porter le fardeau de la discorde? Faites la paix au lieu de la discorde. Faites une action pour les uns les autres. Tout ceci pourquoi? Pour la gloire de Dieu, mon Père, votre Père. Amen. Prosternez-vous.